France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Les confinements de 2020-2021, l'offensive russe en Ukraine l'année suivante, le 7 octobre 2023 et ses conséquences au Moyen-Orient et finalement l'arrivée au pouvoir de Donald Trump 2 à la fin de l'année dernière. En 4 ans, le monde a basculé dans le second quart d'un 21e siècle qui promet d'être plus imprévisible et plus dangereux peut-être que les 25 ans qui ont précédé et qui du 11 septembre et du phénomène terroriste à la guerre d'Irak, de la crise de l'information à l'irruption des nouvelles technologie et à la montée des néopopulismes ferait presque figure d'apéritif. Le retour de l'histoire, de ce point de vue, ressemble moins à un retour à un monde familier qu'à une plongée dans l'inconnu. L'histoire n'a plus ni sens ni direction et sa seule caractéristique semble l'imprévu aux conséquences, un imprévu aux conséquences potentiellement tragiques. Vers quoi se tourner? Vers quelle boussole? Pour étrange et paradoxal que cela puisse paraître, la philosophe Perrine Simon-Naoum et Nicolas Bavrez ont tous les deux choisi de se tourner vers Raymond Aron, un homme mort en 1983, grand chroniqueur du XXe siècle, qui n'a connu ni le 11 septembre 2001, ni la guerre d'Irak, ni rien de tout ce qui constitue notre actualité pratiquement quotidienne. Et on va essayer de voir aujourd'hui en quoi Raymond Aron est non seulement actuel, mais nécessaire. Perrine Simon-Naoum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeure attachée au département de philosophie de l'ENS Ulm. Vous sortez en ce moment le livre de Raymond Aron, un livre qui s'appelle Aron, critique de Sartre, qui est une série de textes rassemblés sur Sartre par Aron et avec une introduction et une édition que vous avez signée aux éditions Kalman-Lévy. Nicolas Bavrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, vous êtes avocat, vous êtes éditorialiste au Point et au Figaro. Vous avez écrit un grand nombre d'ouvrages, dont Aron, Penser la liberté, Penser la démocratie en 2005. Et vous êtes également, vous l'êtes toujours, trésorier de la Société des Amis de Raymond Aron. Je ne sais pas si vous l'êtes encore.
C'est tout à fait vrai.
Voilà, d'accord. Alors, Raymond Aron, donc, on va parler à la fois du livre Aron, critique de Sartre, et de la revue Cité, qui sort en ce moment, un numéro spécial consacré à Raymond Aron ou la liberté de penser, qui est coordonné par vos soins, Perrine Simon-Naoum, numéro dans lequel vous avez collaboré, Nicolas Bavrez, avec, entre autres, Pierre Manant, Maximilien Radvanski, Philippe Reynaud et Yves-Charles Zarka, qui dirige la revue Cité. Alors, Raymond Aron, vous dites dans le... Perrine, vous dites dans l'introduction au livre, je crois, que ce qui frappe s'agissant du jeune Aron, c'est la précocité avec laquelle il s'est emparé du thème de l'histoire. Et vous dites qu'il y a des raisons biographiques à ça, l'appartenance à une famille de la bourgeoisie juive, le rappel de l'affaire Dreyfus, comme lui-même l'évoque dans ses mémoires, mais aussi les conséquences de la crise de 29 sur la fortune familiale. C'est-à-dire que dès le début, lui, non seulement lui, mais toute sa famille sont pris dans l'époque, en fait.
Oui, alors il y a une double raison biographique, vous l'avez rappelé, qui tient à l'histoire familiale, une histoire familiale marquée par l'affaire Dreyfus. Aron est également, comme l'a récemment montré Stéphane Audouin-Rousseau dans un très beau numéro de l'Erne, dirigé par Elisabeth Dutartre-Michaud, consacré à Raymond Aron. Il est également très marqué par la Première Guerre mondiale et évidemment la crise de 29. La crise de 29 arrive quand le jeune Aron est déjà entré à l'école normale supérieure, au moment où il s'apprête à partir en Allemagne. Et c'est deux séjours en Allemagne, un premier séjour en 1930 à Cologne et un second à Berlin en 1932, vont évidemment le précipiter dans l'histoire parce que il assiste là à la montée du nazisme, à la transformation sociale et idéologique du pays. Et il comprend à ce moment-là que la question de l'histoire va être la grande question du XXe siècle. Ce qui est effectivement très intéressant, c'est que, à part son condisciple Paul Nizan, on peut dire que les autres intellectuels de cette génération, je pense notamment évidemment à Jean-Paul Sartre et à Maurice Merleau-Ponty, vont découvrir l'histoire, la question de l'histoire, beaucoup plus tardivement.
Donc, oui, vous rappelez dans un des textes de Cité que en Allemagne, Raymond Aron assiste à un auto-da-fé avec, il était en compagnie de Goloman, un des fils de Thomas Mann, en 33, le 10 mai, je crois. Il assiste à un auto-da-fé, donc il voit directement le nazisme, et que pendant la dernière partie de son séjour, il va céder sa place à Sartre, qui va venir en Allemagne à sa place, donc, et pour étudier la phénoménologie, que Sartre, lui, ne va rien voir du tout.
Non, Sartre ne voit rien. Alors, ce qui est très remarquable chez Aron, c'est qu'il commence à publier des articles dans la revue d'Alain. Alain était pacifiste et Aron, jusqu'à la fin des années 20, est entraîné dans ce courant pacifiste qui est très majoritaire, notamment chez les normaliens. Et donc, il va changer complètement d'avis lors de ses séjours en Allemagne, et il publie des réflexions d'Allemagne durant les 2 ans qu'il passe là-bas, qui sont non seulement une analyse historique, mais une analyse qui prend en compte à la fois, je dirais, la transformation économique et sociale. Il montre comment, et on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, comment les milieux dirigeants allemands, les forces économiques et sociales vont porter Hitler au pouvoir, pensant se servir de lui comme une marionnette, ce qui évidemment ne sera pas le cas. Et en même temps, il montre la transformation idéologique à travers la forme, la force de la propagande nazie et l'usage que le nazisme fait des masses. Et il rentre pour des raisons philosophiques, il dit à Sartre, tu devrais aller voir en Allemagne, il y a un courant philosophique qui va te plaire, c'est la phénoménologie. Et Sartre va en Allemagne. Là, on peut faire le rapport avec le grand livre de Sartre, La critique de la raison dialectique, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et Sartre écrit à Simone de Beauvoir, j'ai lu Husserl, j'ai lu Heidegger, je les ai digérés pour faire ma propre philosophie. Mais sur le reste, Sartre ne voit rien. Et on a finalement la découverte que fera Sartre de l'histoire. Il le décrit très bien lui-même. C'est beaucoup plus tard, au moment où il est mobilisé dans les carnets de la Drôle de Guerre, les échanges qu'il a avec Simone de Beauvoir. Finalement, il découvre l'histoire dans la chambrée, au moment où il est en promiscuité avec tous ses autres soldats ou mobilisé lui-même. Donc, il est à l'armée. Merleau-Ponty va lui aussi faire cette découverte de l'histoire et écrire ce texte que, pour ma part, je trouve très formidable dans le premier numéro des Temps modernes en octobre 1945, La guerre a eu lieu. Merleau-Ponty décrit le milieu des normaliens des années 20 en disant « nous vivions dans un paradis ». Il décrit la cour aux Ernest, la manière dont les normaliens discutent des grands problèmes philosophiques, Sartre, Nizan. Et il dit « nous ne pouvons plus faire ». En 1945, comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Nous avons pris la guerre en pleine figure en 1940-41, notamment à travers l'antisémitisme et la responsabilité que celui-ci a fait naître auprès des intellectuels.
Dans la revue Cité, Philippe Reynaud dit que la pensée d'Aron peut être comprise, comme, je le cite, comme une autocritique du républicanisme français et plus généralement de la version française de l'héritage des Lumières. Effectivement, dans son dialogue et donc dans sa polémique croissante avec Alain, Alain se définit comme un cartésien, comme un républicain, et ça c'est ce qui guide à la fois son pacifisme, son antifascisme, mais son refus de la guerre, et c'est là-dessus que va se faire l'éloignement de Aron. Perrine Simon-Naüm dit que la violence forme l'horizon des analyses intellectuelles de Raymond Aron, et vous, Nicolas Bavrez, vous dites que Aron est très rarement présenté comme un stratège, alors qu'en fait un très grand nombre de ses éditoriaux et surtout la majorité de ses livres, particulièrement après 1944, ne parlent pratiquement que de géopolitique et de la guerre.
Oui, c'est ce qu'on a dit. Aron a découvert la violence politique et la guerre très tôt. Et c'est ce qu'il distingue de la plupart des intellectuels de sa génération. Donc il l'a découverte avec la montée du nazisme, le choc de l'antisémitisme. Très tôt, il comprend qu'une deuxième guerre mondiale est inévitable. Ensuite, il est anti-munichois. Il est à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dès juin 40,
il choisit de passer à Londres, de rejoindre le général de Gaulle. Et puis, il découvre la Shoah à la fin de la guerre. Et en 47, il fera partie avec Malraux des très rares intellectuels français qui se prendront le parti très clair de défendre la démocratie et la liberté politique face aux compagnons de route. Et en fait, la partie stratégique, Aron va vraiment la découvrir à Londres, parce que il est le responsable de la revue qui s'appelle La France Libre, et dans la revue La France Libre, qu'en réalité il gère et dont il assure une partie essentielle des écrits, il y a une analyse des opérations militaires. Et ce que dit Aron, c'est qu'il s'intéressait déjà aux relations géopolitiques, mais ce qui est vraiment la partie stratégique, c'est-à-dire quelles sont les stratégies déployées, quelles sont les forces en présence, quelles sont les tactiques, les doctrines d'emploi de ces forces. C'est vrai qu'il a été un des très rares à s'y intéresser et à les connaître intimement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a ça va avoir un grand rôle après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'avec le grand schisme ou les guerres en chaîne, c'est le premier qui va expliquer la structure de la guerre froide, avec la fameuse formule « paix impossible, guerre improbable ». Mais surtout, ça va être l'homme qui va être le pédagogue de la dissuasion nucléaire.
Voilà.
Donc, il est en relation, il aura avec y compris toute la future équipe de l'administration Kennedy qui mettra en place la théorie de la riposte graduée, mais surtout, c'est le seul qui va faire un cours à Sciences Po sur les problèmes de la dissuasion, et un cours qui sera tellement apprécié qu'en réalité, il y a un certain nombre de militaires qui y assisteront, et qui feront un polycopier à partir de ce cours, et ça va devenir une espèce de manuel de l'école de guerre dérivé de ce cours de Sciences Po. Alors, il y aura les polémiques avec les gaullistes et avec des partisans, j'allais dire, extrêmement rigides de la dissuasion nucléaire, type le général Gallois. Mais il y a ce rôle de pédagogie qui a été très important vis-à-vis des Français et vis-à-vis des dirigeants français.
Alors, parce que penser l'histoire, c'est pas penser le sens de l'histoire, on va en reparler tout à l'heure, c'est penser la violence, donc penser la guerre, et à partir de 45, 47, 48, quelque chose se passe, c'est que le sens et la forme même de la guerre est complètement modifié, un peu comme les choses sont modifiées aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui en sont presque la suite, mais en l'occurrence c'est avec la bombe atomique, et qui va modifier tout, c'est-à-dire qu'une technologie va changer la façon de penser de la planète entière. Et c'est ça que Raymond Aron va prendre en charge.
Oui, mais c'est arrivé plusieurs fois. Oui, c'est comme quand on a inventé l'artillerie. Et comme toujours, l'arme précède la doctrine.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est la chose qui oblige à penser.
Et notamment, les États-Unis sont les seuls, on expérimente l'arme. À partir du moment où l'Union soviétique accède aussi à l'arme nucléaire, évidemment, le système change complètement. Et c'est à ce moment-là qu'on imagine d'abord la riposte dite des représailles massives, et puis on s'aperçoit qu'elle ne convient pas, et on passe ensuite à la riposte graduée.
C'est ça, c'est les trois grands livres de Raymond Aron sur le sujet. Vous venez de le dire, en 48, le grand schisme, en 51, les guerres en chaîne, et puis en 62, ensuite, paix et guerre entre les nations.
Il y aura Clausewitz ensuite.
Et donc, c'est l'idée que l'arme nucléaire n'est pas simplement un moyen plus supplémentaire et plus puissant pour les bombardements, mais une innovation majeure. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement, c'est un changement de nature, en fait, et pas un changement, et pas un simple changement de puissance.
C'est un changement de nature sur la guerre, et c'est un changement de nature sur le système international, puisque ce système de la guerre froide, il était Donc, il y avait les deux superpuissances avec l'opposition idéologique, politique. Il y avait derrière les deux blocs d'alliance et le tout était verrouillé par la relation nucléaire entre les deux superpuissances. Alors, donc, il y a eu cette cohérence qui s'est étendue du début des années 50 jusqu'à la...
Jusqu'aux années 90.
Jusqu'à la chute de l'Union soviétique et qui s'est cristallisée notamment, par exemple, autour de la crise de Suez, où très clairement, les deux superpuissances ont fait savoir à la France et à l'Angleterre et au Royaume-Uni que c'était terminé et qu'elles reprenaient les choses en main.
Voilà. L'ère de la dissuasion et l'équilibre de la terreur va de pair avec, vous venez de le dire, Nicolas Bavrez, c'est la fin de la domination européenne du monde, en fait. C'est la naissance d'un monde pas encore multipolaire, mais en tout cas bipolaire. Et ce que les pays européens et la France en particulier ne vont pas vouloir admettre facilement. Et ça va être tout le débat autour de la décolonisation qui est en fait au moins autant l'œuvre des militants du tiers-monde que du nouvel ordre géopolitique, en fait. Perrine, c'est mon avis.
Oui, là encore, Aron est d'une certaine façon, je dirais, visionnaire. Cela dit, le mot ne convient pas parfaitement parce qu'il tire ses idées de l'analyse politique et économique de la réalité. Mais c'est l'un des premiers, peut-être le premier, à annoncer dans la tragédie algérienne en 1957 que la France va devoir quitter l'Algérie et qu'il vaut mieux finalement que l'Algérie prenne son indépendance. Mais encore une fois, il le fait à partir d'une analyse économique et politique de la situation algérienne et pas du tout comme le font les compagnons de route ou ce qu'on appelait à l'époque les porteurs de valises, c'est-à-dire les intellectuels engagés idéologiquement aux côtés du FLN d'un point de vue idéologique. Il y a aussi dans les positions d'Aron face à la décolonisation cette vision qui lui est propre de l'histoire et ce combat contre la violence, à savoir la manière dont il met toujours en regard les décisions, les choix qui s'offrent aux acteurs historiques et la réalité. Et l'autre grand texte dans lequel il annonce finalement cette décolonisation, c'est un texte très beau qui s'appelle « L'aube de l'histoire universelle », qu'il va mettre en conclusion d'un recueil d'essais historiques qu'il publie en 1960 sous le titre « Dimension de la conscience historique ». Je crois qu'à travers ce que Nicolas a rappelé sur la guerre et sur la dissuasion nucléaire, à travers la décolonisation, on voit bien que ce que Aron définit de singulier ou ce qu'il a de singulier dans sa manière d'analyser la réalité politique à travers les articles qu'il écrit pour Le Figaro, c'est la notion de conscience historique. C'est-à-dire comment finalement les acteurs que nous sommes, les individus que nous sommes, sont pris entre une certaine forme de déterminisme qui peut être économique, qui peut être social, qui peut être historique, et finalement les choix politique qu'ils font et qu'ils doivent assumer. Alors, Aron ne prétend jamais se mettre à la place des dirigeants politiques. Il y a aussi la préface qu'il écrit à la célèbre conférence de Max Weber en 1959, Le savant et le politique. Il ne prétend pas prendre la place du prince, mais il est toujours là pour rappeler finalement quelles sont les possibilités qui s'ouvrent, les choix qui font de nous les acteurs de notre propre histoire face à la réalité de l'événement que nous vivons. Et là encore, il me semble que c'est une position qu'il faut rappeler aujourd'hui parce que Aron part toujours de la réalité et non pas de la manière dont il souhaiterait voir l'histoire se dérouler.
Oui, c'est ça. Il dit quelque part dans ses mémoires qu'à partir du moment où il a rompu avec Alain, il s'est voulu responsable presque à chaque instant, toujours enclin à me demander, je le cite, « qu'est-ce que je pourrais faire à la place de celui qui gouverne ?» C'est une phrase des mémoires. C'est-à-dire que c'est la grande différence avec les militants pour l'indépendance de l'Algérie, sa position n'est pas exclusivement morale, elle est réellement une tentative de comprendre les temps dans lesquels il vit, en fait.
Absolument. C'était, d'une certaine manière, la mission qui s'était fixée lors d'une célèbre promenade sur le Rhin, qui était de comprendre l'histoire du XXe siècle et de la penser au plus près de ceux qui la font. Donc, il y a finalement trois choses chez Aron qui sont dans cette compréhension de l'histoire. C'est que d'abord, l'histoire, elle stagne et puis elle accélère. Donc, lui, il a vécu. Parce que le vrai suicide de l'Europe, c'est la guerre de 14-18. Donc ça, il l'a très bien compris. Il voit ensuite le basculement de l'Allemagne. Et le basculement de l'Allemagne, c'est avec Elia Levy, il est le premier à faire la comparaison entre et à utiliser le terme de totalitaire pour désigner l'Italie mussolinienne, l'Allemagne hitlérienne.
C'est le premier à avoir employé le terme.
C'est les premiers à la fin des années 30, on le trouve chez Elia Levy et chez Aron. Mmh. Notamment dans une célèbre conférence de la Société française de philosophie en juin 39. Autre basculement, bah évidemment, c'est la débâcle de 40, il fait le choix d'aller se battre à Londres. Ensuite, la guerre froide et, on l'a dit, la décolonisation. La deuxième chose qui est très importante et très pratique, c'est qu'il connaît la fragilité des démocraties. Il a vécu deux catastrophes. Weimar, en quelques semaines, on l'a rappelé, beaucoup de gens pensent manipuler Hitler. C'est Hitler qui casse l'état de droit, qui prend le pouvoir et qui impose l'état nazi, ce qui se fait très, 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 très vite. Et puis, évidemment, la débâcle de juin 40. Il faut quand même rappeler que Aron a été exclu de l'université par le statut des Juifs, que ses livres ont été détruits en étant sur la liste Otto, que sa femme a dû se cacher avant d'aller le rejoindre à Londres en passant par le Maroc. Donc, il a vécu ce que c'était que la fin d'une république. Donc, il a cette conscience de la fragilité. Et ensuite, il y a la question de la paix et de la guerre. Parce que la nature profonde du XXe siècle, ça reste les grandes guerres au nom des idéologies. Et donc, c'est vrai que c'est ça le grand clivage avec Sartre, c'est que pour ça, Aron est le dernier philosophe des Lumières, c'est un homme de la raison et de la raison contre la violence. Pourquoi ? Parce que la violence, c'est la menace absolue contre la démocratie et contre la liberté. Et Sartre, avec toute sa virtuosité dialectique, alors Sartre, d'une certaine manière, il est violent que sur le papier, mais il est extrêmement violent sur le papier. Et ce que reproche Aron à Sartre, c'est d'abord une erreur philosophique, l'histoire de penser que parce que la liberté individuelle et le matérialisme historique de Marx sont irréconciliables, on peut passer de l'un à l'autre avec une espèce d'artifice qui est la violence, qui permet à la conscience d'accéder à un destin collectif en se révoltant et à travers la violence. Et donc, Aron montre qu'en réalité, ça ne résout rien, c'est-à-dire que le choix, comme le disait Beauvoir dans ses mémoires, Aron disait toujours à Sartre, à l'école normale, de deux choses l'une, mon petit camarade. Et effectivement, de deux choses l'une, soit on est pour la liberté individuelle, soit on est pour le déterminisme historique et le fait qu'il y a un sens de l'histoire et que la révolution marxiste annulera et les classes et l'État. Mais entre les deux, ça n'est pas compatible. La deuxième erreur, c'est une erreur historique, c'est-à-dire être pour la violence au XXe siècle, c'est quand même être pour précisément les régimes qui cherchent à annuler non seulement la liberté politique, mais la dignité des hommes. Et puis, enfin, il y a cette dimension vraiment, cette dimension morale de ne pas comprendre que prendre le parti, faire le pari de la violence, avoir une mystique, un romantisme de la violence, c'est non seulement c'est casser la liberté politique, mais c'est vraiment porter atteinte à ce que l'homme peut avoir à la fois de plus profond, de plus digne, et surtout porter atteinte aussi à précisément l'idée d'humanité et l'idée que au-dessus de toutes les différences de race, de nation, d'ambition, etc., il peut y avoir une vocation universelle de l'humanité. Ce à quoi Aron, ça c'est le côté kantien qui survit chez lui, puisque à la fin des mémoires, il dit que il ne voit pas d'autre chose qui pourrait autour de laquelle l'humanité pourrait trouver cette vocation universelle, d'autre chose que la raison.
Perrine Simon-Nahum, je voudrais qu'on vienne sur la première des contradictions, cet existentialisme marxiste ou ce marxisme existentialiste, selon lequel la contradiction entre la volonté individuelle et le déterminisme historique est résolue par la violence. En fait, c'est quand la violence individuelle rejoint le courant historique que l'union se fait dans la lecture qu'Aron fait de Sartre.
Oui, je dirais que j'irai encore plus loin que Nicolas. Je pense que ce que Aron montre dans ce cours qu'il va consacrer au grand livre de Sartre, Critique de la raison dialectique, hein, qui est le dernier grand livre philosophique que Sartre publie en 1960-61. Le second tome paraîtra après la mort de Sartre, donc de façon posthume. Aron dit au départ, je l'ai lu comme ça, mais c'est un livre ennuyeux, et effectivement, c'est un livre très très massif et souvent assez verbeux, assez redondant. Et puis finalement, Aron y revient et il y consacre une année de cours. Et donc il faut se poser la question de savoir pourquoi Aron lui consacre une année de cours. Et c'est ce que Nicolas a très bien montré, c'est-à-dire que a très bien rappelé, c'est-à-dire que finalement, ce que Aron montre, c'est que la philosophie de Sartre non seulement autorise la violence, mais l'appelle. Et ça, pour lui, c'est quelque chose qui trahit en fait ce qui est la vocation même. La vocation même de la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'il démonte à travers cette philosophie de Sartre ? Vous l'avez très bien dit, ce qu'il dit, c'est que finalement Sartre ne s'est pas rangé au marxisme, mais qu'il a fait avec Marx, comme il avait dit, ce que j'ai rappelé pour Heidegger et Husserl, il a digéré le marxisme. C'est-à-dire que finalement, il s'est emparé du marxisme. Pourquoi a-t-il été cherché du côté du marxisme ? Eh bien parce que, dès sa thèse, dès 1943, qui était elle-même d'ailleurs une réponse à la thèse d'Aron de 1938, Introduction à la philosophie de l'histoire, Sartre posait l'absoluité de la liberté individuelle du sujet. Or, il a été resté, je dirais, dans L'être et le néant, il était resté complètement dans l'abstraction, et tout l'effort philosophique de Sartre entre 1943 et 1952, le moment où il rejoint le communisme, d'ailleurs à la surprise de ses proches, parce que personne ne l'avait vu venir, dans la livraison, trois livraisons d'un grand article dans Les Temps modernes, Les communistes et la paix, Sartre va essayer d'ancrer cette philosophie de la liberté absolue dans l'homme concret. Et d'ailleurs, Critique de la raison dialectique portait, en fait, au départ, comme titre de l'homme, et Sartre voulait établir une anthropologie. Or, comme le montre très bien Aron, et il en fera grief également à Merleau-Ponty, et de façon beaucoup plus, d'une certaine façon, dans les années 50, beaucoup plus forte à Merleau-Ponty, effectivement, la liberté absolue de l'individu est inconciliable avec une philosophie de l'histoire qui serait une philosophie d'un sens collectif de l'histoire, en l'occurrence, la victoire du prolétariat. Et donc, Sartre va chercher à chapeauter ce qu'il appelle la raison analytique, qui est la raison kantienne, que rappelait Nicolas, par ce qu'il appelle une raison dialectique, dans laquelle soumet le sujet à un certain nombre de retournements qui ne sont des retournements, je veux dire, absolument pas justifiés d'un point de vue philosophique, qui sont des axiomes qu'oppose Sartre, pour essayer de faire coïncider ce qu'il appelle la praxis, c'est-à-dire la conscience individuelle, l'individu totalement libre et transparent à lui-même qui se rapporte au réel, et le projet collectif qu'il appelle le projet. Ouais. Et donc il va passer à travers un certain nombre de constructions philosophiques, ce qu'il appelle la série. D'abord, alors la série, c'est ce sont ce qu'il des ensembles collectifs. La série, c'est les gens qui attendent l'autobus. Donc ils ont tous le même projet, qui n'est pas un projet commun, parce que l'autobus peut être bondé. Donc quand vous attendez l'autobus bien aligné à l'arrêt, votre idée, c'est de prendre l'autobus plutôt que de permettre à votre voisin de le prendre. Ensuite, ce qu'il appelle le groupe en fusion, c'est-à-dire la révolte, et là, il donne l'exemple de la prise de la Bastille en 1789. Et finalement, donc, qu'est-ce qui permet à l'individu de se retrouver dans un collectif, c'est le partage de la violence. Et donc, Aron dit finalement, la philosophie sartrienne, ce marxisme compréhensif, comme il dit, ce marxisme existentialisé, parce que Sartre, dans le premier chapitre de Critique de la raison dialectique, explique que les marxistes feraient bien finalement de devenir existentialistes, eh bien, finalement, ce qu'il fait, c'est que il n'arrive jamais à résoudre la question d'un projet collectif, ni celle de l'histoire, autrement que par la terreur, qui est pour lui l'autre visage de la fraternité. Et ça, évidemment, va complètement à l'encontre de l'humanisme rationnel d'Aron.
La terreur qui est l'autre visage de la fraternité, c'est intéressant. Il y a cette idée que, la violence devient en quelque sorte l'expression du romantisme, c'est, d'où l'expression le romantisme de la violence, et en même temps la violence du romantisme en quelque sorte.
Vous voyez que c'est quasiment mot pour mot l'expression de Big Brother. Big Brother dans 1984. Oui. C'est exactement ça. La liberté, c'est l'esclavage. Et la paix, c'est la guerre. Oui. Et donc, on voit très bien pourquoi... Et ça explique d'ailleurs pourquoi quelqu'un comme Solzhenitsyn a refusé de rencontrer Sartre et Beauvoir. Parce que lui, qui vivait ce système, lui savait ce que c'était que la terreur. I am holding your torch. I won't hold it no more. You can have it, take it, use it. I am holding your torch. I won't hold it no more. You can have it, take it, use it. I'll need both my hands to hold my own. I need only one light, the light from one. I'm in your room, we've been here for weeks now. Your windows are painted with nothing beyond. Alors, vous dites, Nicolas Bavrez, Aron reste fidèle à la pensée classique des Lumières, en particulier dans sa pensée de l'État. Ça contribue à l'isoler. Il a une position très solitaire. Il aura toujours une position très solitaire dans le paysage français de la seconde moitié du XXe siècle. Mais je voudrais poser...
Aron a misé sur les lumières, c'est-à-dire sur la raison, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a cette phrase, notamment, que j'ai trouvée en exergue de, je crois que c'est de la revue Cité, « Si l'on ne parie pas sur la raison, sur quoi parier ?» C'est dans « Penser la guerre », Clausewitz. Et alors, j'ai envie de me faire l'avocat du diable, parce que on est aujourd'hui dans une période où la raison est absolument dévaluée, non seulement dévaluée, mais on a le sentiment que la raison n'a plus du tout, ne peut pas concurrencer l'efficacité irrationnelle qu'on voit partout dominer, à commencer par les États-Unis, par exemple, par ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, je me demande si la question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un comme Raymond Aron, aujourd'hui, j'ai commencé par dire qu'il fallait qu'on se tournait vers lui pour essayer de trouver une boussole des temps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose des temps contemporains, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément paradoxal à essayer de penser l'époque d'aujourd'hui à partir de lui?
Non, je ne pense pas, parce que ça a été rappelé tout à l'heure par Perrine Simon-Naoum. Aron est un des premiers qui a pensé l'après-Union soviétique, avec ce qu'il appelait l'histoire de l'âge de l'histoire universelle. C'est une conférence prononcée à Londres en 1960, et voilà comment il concluait. « Jamais les hommes n'ont eu autant de motifs de ne plus s'entretuer. Jamais ils n'ont eu autant de motifs de se sentir associés dans une seule et même entreprise. Je n'en conclus pas que l'âge de l'histoire universelle sera pacifique. Nous le savons, l'homme est un être raisonnable, mais les hommes le sont-ils ? » Et franchement, c'est exactement ce que nous vivons. Donc, Aron est utile, pourquoi ? Parce qu'en matière de basculement de l'histoire, vous avez rappelé tous les chocs, le crack, la pandémie, l'invasion de l'Ukraine, aujourd'hui le basculement des États-Unis dans la démocratie libérale avec Donald Trump. Donc, on est dans une de ces périodes de grand basculement de l'histoire, de grandes tensions. On voit la fragilité des démocraties, et effectivement, aux États-Unis, on voit comment une logique de la peur peut, en quelques semaines, s'installer dans un pays dont l'histoire, jusqu'à présent, se confondait avec la démocratie. Et on voit aussi cette logique de la guerre. Aujourd'hui, c'est un peu pour reprendre la formule d'Aron, on est toujours dans paix impossible, mais on est dans guerre omniprésente. Et donc, là où la pensée de Aron est utile, c'est que il faut jamais oublier que déjà dans les années 50, les démocraties, elles étaient archi-minoritaires. Aujourd'hui, il reste à peu près 6,6% de la population mondiale qui est gouvernée par une démocratie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ces nations libres, parce qu'elles ont sans doute beaucoup de défauts, elles ont commis beaucoup d'erreurs, mais ce sont les seules qui permettent justement de préserver la liberté et la dignité des hommes. Et c'est là où Aron est utile. Quand on parle de raison, on a parlé de nucléaire tout à l'heure. C'est intéressant de voir que dans ce domaine, jusqu'à présent, quand on regarde la guerre d'Ukraine, qui est une guerre d'une sauvagerie comparable à celle de 1914, la grammaire nucléaire, pour l'instant, elle a été respectée des deux côtés. Là où la Russie de Poutine en fait une application perverse, c'est qu'elle construit l'agression sous le parapluie nucléaire. Oui. Mais tous les messages qui ont été envoyés des deux côtés ont été respectés. Il n'y a pas eu de frappe sur du territoire OTAN. Et à l'inverse, il y a toujours eu, et on voit avec le retrait de Koursk, qui a quand même été très fortement demandé par les États-Unis, que l'idée de frapper de manière massive ou d'envahir le territoire russe est quelque chose, en tout cas, que les Occidentaux ont cherché à exclure. Et donc, c'est vrai que la raison est très bousculée, c'est vrai qu'elle est mise à mal par la révolution technologique, par les réseaux sociaux, par le populisme, par les attaques contre la science, la recherche, l'université, la culture, les musées. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se battre sur elle. Et là où Aron ne s'est pas trompé, c'est que si on cherche une espèce de pierre angulaire sur laquelle assurer la préservation de la liberté, c'est assurément avec la raison. Et c'est là où l'Europe, qui est très malmenée, très vulnérable, mais a aussi une occasion historique, c'est-à-dire qu'elle est à la recherche d'un projet politique, le projet politique de l'Europe du XXIe siècle, il faut qu'elle y arrive, mais c'est clair que c'est d'arriver à assurer la survie de la démocratie. Et pour ça, il faut, il faut assurer la survie de la raison.
Je vais vous poser la même question, Bérine Simon-Ahume, parce que je vais, à partir d'un exemple personnel, au tournant des années 2000, quand le processus de paix s'est effondré au Moyen-Orient, j'étais en Israël, tous les gens avec qui je pouvais discuter me disaient la même chose, on va arriver à un accord de toute façon, parce que c'est la seule solution raisonnable. Donc, on va y arriver. Et on n'y est pas arrivé du tout. Donc, c'est le sens de ma question. L'invocation de la raison, c'est une chose, mais quand le monde s'enflamme, qu'est-ce qu'on en fait ?
Il faut tenir bon sur la raison, comme disait Nicolas, comme disait Aaron. Ce qui est très intéressant et ce pourquoi il reste aujourd'hui un interlocuteur indispensable, je crois qu'il y a une double leçon à retenir d'Aaron. D'une part, c'est que c'est une philosophie de l'action. C'est-à-dire qu'il s'est toujours placé du point de vue de l'acteur historique et de l'individu, c'est-à-dire ne jamais faire le sacrifice de l'individu. Et d'autre part, c'est une philosophie des limites. C'est-à-dire que, là encore, il sait très bien que la raison constitue ce qu'il appelle un horizon régulateur, que nous sommes des êtres finis, mais que nous pensons l'histoire au-delà de notre propre vie et pour les générations à venir, et qu'il faut faire avec la réalité, mais sans jamais sacrifier ses valeurs. Parlant d'Israël, je crois qu'il aurait été très... Enfin, on ne peut pas le faire parler,
oui,
mais voilà, je pense qu'il aurait été très attentif, en tout cas, à l'idée qu'Israël demeure aujourd'hui ce que a toujours été le projet israélien, à savoir une démocratie.
Une toute dernière question. Vous disiez, Nicolas Vavrez, que les démocraties étaient minoritaires dans les années 50, mais il y a aussi moins d'États. Là, on a affaire à non seulement une pléthore d'États, mais aussi à des organisations qui ne sont plus étatiques. Donc, comment est-ce que les choses peuvent se gérer à partir de là ?
Alors, c'est un des reproches qui a été fait à Aaron, c'était précisément d'être resté un peu trop un homme du XVIIIe siècle, de donner trop d'importance aux États, et de sous-estimer, pas le système international, parce que ça, il l'avait bien décrit, mais de sous-estimer le mouvement des sociétés. Et c'est vrai que dans le cycle de la mondialisation qui s'est achevé, on pouvait avoir l'impression que les États avaient perdu la main. Mais pour le coup, le monde dans lequel on est, c'est vraiment, on est de retour dans un monde aaronien. C'est la revanche de la géopolitique sur l'économie, c'est la revanche de l'État sur les marchés, c'est la revanche du protectionnisme sur le libre-échange, c'est la revanche de la sécurité sur l'optimisation des chaînes de valeur. Donc, on est dans un monde qui est le monde des États, on est dans un monde qui est le monde de la violence, on est dans le monde de l'ascension aux extrêmes de la violence que la raison politique doit essayer d'endiguer. Voilà, merci à tous deux. Merci Perrine Simon-Ahume. Aaron, critique de Sartre, texte rassemblé et commenté par vous-même chez Kalman Lévy, qui sort en ce moment. Et merci Nicolas Bavrez d'avoir été là. Le dernier livre, si j'arrive à décrypter ce qu'on m'a écrit, Sursaut, c'est ça, le titre ? c'est bien ça.
Voilà, aux éditions de l'Observatoire. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Marie-Pierre Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Et je rappelle aussi la revue Cité consacrée à Raymond Aron qui sort en ce moment.